nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, dans cette émission Focus, je vous propose d'écouter Xavier Darcos qui intervenait à l'OCDE à l'occasion d'une conférence de l'IEFP, l'Institut de l'éducation financière pour le public, sur le thème « L'éducation financière, une réponse possible à la crise ». Alors tout de suite, réponse avec Xavier Darcos, actuel ministre du Travail et bien sûr académicien.
Le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, de me recevoir. Nous nous connaissons bien, nous sommes amis depuis longtemps puisque j'étais en effet ambassadeur auprès de l'OCDE avant d'être ministre de l'Éducation nationale. Comme il vient de le dire aussi, c'est le bon endroit que l'OCDE pour parler des questions qui vont vous occuper aujourd'hui, de l'éducation financière. Et comme vient de le dire le secrétaire général à la fin de son intervention, c'est ici que l'on discute des questions liées à la crise, à la question des échanges, voire à la question des pensions ou des migrations, comme il évoquait. Bref, c'est bien le lieu où la clarté sur les questions financières globales sont quotidiennement évoquées et, dans une certaine mesure, c'est bien le lieu aussi où elles sont régulées. Alors j'ajoute que l'Institut pour l'éducation financière du public a choisi le bon moment pour jeter un éclairage sur la question de l'éducation financière, parce qu'évidemment, la période que nous traversons, ou peut-être que nous venons de traverser, espérons, la période actuelle en tout cas, rend essentiel, vital même, que les publics, les citoyens comprennent ce qui se passe autour d'eux, quels sont les mécanismes qui régissent la finance, quelles sont les règles et qui devrait s'imposer. Pourquoi les dérèglements ont-ils eu les conséquences que nous voyons? C'est une question évidemment de savoir, de maîtrise d'un objet scientifique, qu'est l'éducation financière, certes. Mais c'est aussi une question politique, puisque c'est une manière de donner des codes pour interpréter une situation critique qui fait que les citoyens, du coup, peuvent être en défiance vis-à-vis du monde de la finance, vis-à-vis du monde des banques ou vis-à-vis des responsables internationaux. Donc, à double titre, à un titre pédagogique comme à un titre politique, je considère que cette conférence est très importante et elle vient au bon moment. D'ailleurs, les chiffres sont éloquents sur cette question. Lorsque nous regardons dans un pays comme le nôtre, en France, mais je crois que les chiffres valent aussi pour l'ensemble de l'Union européenne, 2 adultes sur 10 n'ont encore aucun accès aux opérations bancaires. Ça, parce que c'est. 3 adultes sur 10 n'ont pas d'épargne. 4 sur 10 n'a jamais eu accès au crédit. Et on peut donc se poser la question de savoir si il est normal que dans un système comme celui que vit l'Union européenne, qui est un système moderne, qui est un système où forcément il faut un dispositif fiduciaire fort, s'il est normal qu'une majorité de citoyens, même pour certains items, n'ait jamais accès aux services financiers, n'en connaisse pas les risques, et n'en en craignent les contraintes. Angel Gurría évoquait dans la deuxième partie de son discours, lorsqu'il s'exprimait en anglais, parlait des questions d'inclusion sociale et notamment de l'inclusion sociale liée aux faits nouveaux et importants pour l'Europe, des migrations. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas seulement les migrants, il n'y a pas seulement les nouveaux arrivants, il y a des Européens de souche, des Européens anciens qui sont dans les mêmes difficultés. Voyez aussi les questions qui se posent à nous, à tous les responsables, à quel niveau que ce soit, du surendettement. Les familles, parce que précisément elles maîtrisent mal les outils ou parce qu'elles sont livrées à des opérateurs plus ou moins scrupuleux, les familles sont aujourd'hui souvent surendettées. Vous savez qu'en France en particulier, mais pas seulement en France, sont mises en place des dispositifs d'accompagnement, de ressaisie des surendettés. Et ça conduit à des politiques sociales extrêmement complexes, alors qu'évidemment, peut-être, tout simplement, des filtres meilleurs au départ et une meilleure information des citoyens auraient évité ces situations dramatiques. Alors, je suis convaincu, comme le disait Angel Gouria, qu'il faut donc passer par l'éducation, comme toujours. Un ministre de l'Éducation nationale, il croit, sinon il faut qu'il fasse notre métier, que tout commence par l'éducation. Mais le citoyen que je suis aussi, indépendamment du ministre, le pense. « Early as possible », a dit Angel Gouria, « le plus tôt possible ». Évidemment, très tôt, l'éducation financière doit se réaliser dès l'école, puis au collège, puis au lycée, dans les cadres des enseignements disciplinaires. Et c'est une préoccupation qui est celle de mon ministère, de faire en sorte que, à tous les niveaux d'enseignement, ces sujets soient évoqués. L'argent et les moyens de paiement. Qu'est-ce que c'est que la monnaie, par exemple? C'est dans les programmes de l'école primaire en France, mais j'imagine que ça doit être le cas aussi dans beaucoup de pays comparables. Quels sont les droits, quelles sont les responsabilités des consommateurs et des épargnants? Des sujets qui sont évoqués au cours du collège ou du lycée. Finance, économie, société, évidemment, ce sont dans les programmes du lycée et notamment dans les séries s'intéressent aux sciences économiques et sociales. Mais il faut aussi poser la question des ressources, des assurances, comme l'a dit aussi le secrétaire général, des dépenses, qu'est-ce que c'est qu'un budget personnel, qu'est-ce que le crédit, qu'est-ce que l'épargne, qu'est-ce qu'un placement. Tous ces sujets doivent être abordés concrètement, ils font partie de la culture d'un citoyen aujourd'hui. Dans ma fiche, on me dit c'est la culture financière de l'homme moderne. Non, c'est la culture tout court, et pas seulement financière, du citoyen. Ça fait partie de l'environnement. Lorsqu'on lit un journal, lorsqu'on lit une revue, on voit ce vocabulaire, ces questions, ces notions être normalement évoquées, et il faut que le citoyen lambda, nous tous, et les plus jeunes en particulier, comprennent de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je suis très heureux d'ouvrir ces travaux ici même, dans cette OCDE, ce forum formidable, avec son secrétaire général formidable, qui rassemble 30 États membres ou engagés dans un processus de dialogue. Et je sais le travail que fait l'OCDE, non seulement pour que les pays développés parlent entre eux, bien sûr, les membres parlent entre eux, mais aussi pour que s'entretiennent des dialogues soutenus avec les économies émergentes. Et le président de la République française disait, il n'y a pas longtemps, un conseil des ministres, il disait, heureusement que nous avons eu l'OCDE dans cette période, qui nous a permis d'avoir des informations fiables, et ça a été très très utile pour le G20 en particulier, de disposer de cet outil extraordinaire qui a été la base de données que l'OCDE entretient, et le dynamisme d'Angel Gouria, qu'il souhaite d'ailleurs voir pour l'en remercier. Ajoutons enfin que, comme cela saute aux yeux, l'OCDE a montré sa très grande utilité dans cette période de crise qui nécessite de repenser des fondations d'une économie mondiale plus solide, plus juste et plus contrôlée. Mais je voudrais aussi féliciter l'Institut pour l'éducation financière du public qui est à l'origine de cette conférence. Ce n'est pas la première conférence qu'elle fait. Elle en organise de nombreuses depuis quelques années. J'avais déjà assisté dans le public à une convention de ce type, et je la remercie d'autant plus que, peut-être que tout le monde ne sait pas ici, l'IUFP participe aussi à la formation pratique de nos enseignants, monsieur le doyen de l'inspection générale, et participe à cette formation de nos enseignants et de nos élèves en matière économique et financière, donc c'est un partenaire très important de l'école. Et je voudrais tout particulièrement remercier donc son président, Éric Pointillard, et son vice-président, l'inspecteur général Bernard Simler, un de mes collègues de longue date, qui ont ensemble travaillé à un programme d'une éducation financière de qualité, définissant les compétences à acquérir aux divers moments de la scolarité, au primaire, au collège, au lycée, et faisant en sorte que ce travail, cher monsieur Pointillard et cher monsieur Simler, s'inscrive parfaitement dans le socle commun des connaissances que nous souhaitons que tous les élèves aient en commun. Et alors, comme cette union existait depuis longtemps, ce partenariat existait depuis longtemps, mais enfin de manière un peu de gré à gré, par une sorte de gentleman agreement, nous avons pensé qu'il fallait le formuler d'une manière un peu plus claire en signant une convention cadre que nous allons signer tout de suite dans quelques minutes. Et cette convention cadre nous permettra de travailler d'une manière plus régulière. J'ai bien retenu aussi ce qu'a dit le secrétaire général à propos du fait que PISA allait introduire dans ses items des composants liés à la maîtrise des savoirs économiques. Je crois que c'est très important. Ça existait déjà un peu par certains items, mais je pense que c'est très important que nous nous comparions aussi de cette manière-là. J'ajoute que, si je peux dire une chose franco-française, une seconde, monsieur le secrétaire général, ça tombe assez bien, parce qu'il y a eu en France cette année des débats à propos des contenus des programmes dans les disciplines des sciences économiques et sociales. C'est une discipline qui est souvent au cœur de débats. Est-elle pas assez économique? Est-elle trop sociale? Je ne suis pas compétent pour le dire et je ne m'en mêlerai pas. Mais nous avons souhaité à cette occasion qu'on puisse en parler calmement. Nous avons créé une commission autour d'un professeur au Collège de France, M. Gagnère, qui ont pu faire des propositions, dire qu'il fallait peut-être que les élèves aient une connaissance plus immédiate, des choses très, très concrètes, très pratiques, il fallait peut-être être moins ambitieux. Je le répète, moi je ne veux pas en juger, c'est une discipline que je ne maîtrise pas. En tous les cas, ce que je veux dire simplement, c'est que le débat sur ce qu'est au fond l'enseignement de l'économie est un débat qui a existé en France, et j'étais très surpris au cours de diverses rencontres avec mes collègues étrangers, récemment d'ailleurs avec mes collègues européens, de voir qu'en fait ce débat avait existé partout. Ça montre bien que c'est un enjeu fort, indépendamment des tensions qui ont pu exister ou cela, ça montre que c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, la culture générale suppose une culture économique, et puis voilà. Et pas seulement pour les élèves de sciences économiques et sociales, c'est une culture universelle. On n'imagine pas qu'on puisse circuler dans le monde d'aujourd'hui en ignorant ce que c'est qu'un budget, qu'un bénéfice, qu'une épargne, qu'une monnaie, que le marché, que sais-je. Enfin, ça serait jeter des gens à l'aveugle dans un labyrinthe qui est celui du monde moderne. Tout ceci pour dire, et j'en termine, que nous serons très heureux de suivre ce qui sera dit par les experts et les intervenants très brillants qui sont ici. J'ai vu la liste, nous avons là des experts internationaux de première qualité. Je les remercie d'être venus jusqu'ici, et parfois de très loin d'ailleurs. Il y aura donc là un échange fructueux, un échange à caractère international qui nous éclairera, et les actes du dialogue et du colloque pourront venir nourrir la convention que nous allons signer avec l'Institut pour l'éducation financière du public. Et ce sera pour nous un viatique très utile. Je terminerai en remerciant une nouvelle fois de plus les personnes qui sont présentes et surtout M. le secrétaire général de l'OCDE, mon cher Angel. Merci beaucoup de ton invitation et de ta présence, parce que je sais que normalement à 9h30 tu as des ambassadeurs qui t'attendent, et quand je dis qui t'attendent, c'est pas une image, hein. Et donc d'avoir pris le temps de nous recevoir, et je vous souhaite à tous évidemment, mesdames et messieurs, un bon colloque. Merci de votre attention. We'll be right back.